l'étrange beauté du quotidien. Écoutez avec les yeux les vies extraordinaires de gens ordinaires.
La vie ne tient souvent qu'à un fil. Et nous, les êtres humains, nous sommes si peu de choses face à l'immensité d'un ciel, d'une montagne, d'un océan. C'est sur ce fil ténu que nous avançons tant bien que mal, glissant délicatement ou maladroitement un pied devant l'autre, dans l'espoir de tenir debout, de continuer à regarder devant, d'en profiter le plus longtemps possible. Mais profiter de quoi ? D'aucuns diront qu'une respiration profonde au son des grillons, c'est cela en profiter. D'autres chercheront l'excès des nuits sans fin, sans lendemain. D'autres encore verront leur visage s'illuminer par une caresse discrète glissée dans le dos ou sur la main. Peut-être que profiter de la vie, c'est tout cela réuni et 10 000 autres trésors bien cachés. Saurons-nous aujourd'hui ce qui anime ma nouvelle invitée ? Cherche-t-elle l'ivresse de vivre ou se nourrit-elle de toute autre chose ? Nous avons le temps de cette émission, l'étrange beauté du quotidien, dans les studios de la Radio Syllab, pour le découvrir. Et je voudrais d'abord lui dire ma joie de la voir là, devant moi. D'autant plus que les frimas de l'automne ont eu raison de nos petits corps à toutes les deux. Bonjour et bienvenue à toi Manon. Merci, merci pour ta venue.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Et alors avant toute chose, pourrais-tu nous dire, nous expliquer en quelques mots, qui est Manon Bullanger ou Bullanger, j'ai oublié de te demander.
Bullanger.
Bullanger. Ouais. Qui est Manon Bullanger?
Alors du coup, moi c'est Manon, j'ai 27 ans, j'ai un peu du bug avec mon âge, j'arrive jamais à savoir quel âge j'ai, mais j'ai 27 ans, j'habite à Rennes depuis presque 5 ans je crois. Dans la vie j'ai surtout été travailleuse sociale après mes études, et là je suis au chômage et je fais autre chose que travailler, et c'est super, parce que du coup, voilà ce qui existe dans ma vie, c'est surtout de faire du travail social, particulièrement avec des gens dans la précarité et des gens qui consomment des drogues, et sinon à côté des trucs artistiques, de faire de la peinture, de la danse et voilà, de bouiner avec mes mains.
Pour les auditoristes qui découvrent cette émission, l'étrange beauté du quotidien, je rappelle le principe simple de cette interview. Nous allons voyager dans la vie de Manon à travers deux photos et deux chansons. Dans la première partie, elle évoquera ses propres choix, une photo et une musique. Puis, dans un second temps, peut-être un peu plus troublant pour elle, nous nous baserons sur mes deux choix à moi, qu'elle découvrira en même temps que vous. Il est temps de commencer cette belle traversée avec le premier choix de mon invité. Je te montre la photo que tu m'as envoyée il y a quelques jours et je te laisse nous la décrire avec le plus de détails possible, ce que l'on y voit, les différents plans ou les couleurs, afin que les auditrices puissent se laisser porter le mieux possible.
Alors, ma photo est un rayon de supermarché de type grande surface. Et alors, je pense qu'on est au rayon que moi j'appelle le rayon musique du monde, parce que c'est le rayon... saveur du monde ou quelque chose comme ça, où on met tous les produits qui sont pas des produits européens et on appelle ça saveur du monde. Et en fait, dans le couloir du supermarché, il y a une grosse pastèque écrasée par terre qui a fait une grosse explosion, et avec personne dans les couloirs. Voilà.
Est-ce qu'on voit autre chose au second plan, à l'arrière-plan? Est-ce qu'il y a deux trois couleurs que tu pourrais décrire un peu, ou enfin, je pense que c'est déjà parlant, mais si tu as envie de rajouter deux trois bricoles.
Et ben il y a un caddie qui semble un peu tout seul et abandonné au bout du rayon, et voilà, et il y a un éclairage digne des supermarchés et un carrelage écru digne des supermarchés aussi.
Bien au premier plan.
Bien, il occupe environ 80% de
oui,
la
vrai.
Photo le carrelage.
C'est vrai. Et alors pourquoi avoir choisi cette photo ? Qu'évoque-t-elle pour toi ?
Alors déjà, c'était un bon défi de choisir une photo. C'était voilà. Alors, moi, le choix, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie dans la vie. Je déteste choisir ma chanson préférée ou mon plat préféré ou une photo qui résume ma vie. Mais du coup, j'ai défilé ma galerie et globalement, à un moment donné, j'avais décidé que j'allais commencer une collection de photos d'accidents de supermarché. Mais en fait, j'ai pas du tout fait la collection. J'en ai eu deux quand même. J'ai fait la pastèque écrasée et il y avait j'ai une photo d'un paquet de spaghettis avec des spaghettis partout dans le rayon. Et pourquoi je l'aime bien? Parce que en fait, j'aime bien le fait qu'il y ait du désordre dans un endroit aussi carré et aussi aseptisé que des grandes surfaces de supermarchés où tout est un peu fait pour que les gens y discutent pas, qu'on n'ait pas besoin de faire de la spontanéité et de l'interaction et des trucs d'humains, quoi. Parce qu'en fait, on peut juste suivre un itinéraire, on peut ne parler à personne et que tout se passe très bien et scanner nos produits et rentrer chez nous. Ce que je trouve parfois super confortable aussi dans la vie. Moi aussi, des fois, j'ai envie de mettre des écouteurs et de parler à personne. Et ça, je ne dis pas que c'est en soi mauvais, mais j'adore ce qui se passe quand il y a un problème dans la machine, quoi. Et typiquement, quand il y a une pastèque explosée par terre et que tout le monde va contourner l'obstacle comme si... Et voilà, et je trouve que c'est des moments que j'aime bien quand il y a un truc qui vient rompre. Et en fait, des fois, c'est des gens qui font ça, quoi. Et c'est des gens qui soit veulent pas, soit peuvent pas suivre ce truc-là de normes et de trucs super bien huilés et de répondre à tous les codes. Et du coup, ça vient bousculer tout le truc. Et là, on est obligé de faire avec des trucs d'humain, quoi, avec nos émotions. Et l'inattendu. Voilà.
Alors, de mon côté, moi, j'ai adoré découvrir ton choix photographique. Hein, je te l'ai déjà un peu dit par message. Et ça m'a mis la banane. Ouais, j'ai souri devant cette espèce de paysage urbain improbable. Alors, je dis urbain parce que je ne sais pas trop quoi dire d'autre, mais ce n'est évidemment pas exactement cela. Allégorie de la surconsommation, paysage de notre quotidien, absurdité de nos choix de société. Aucun être humain sur cette photo, tu l'as dit, ça aussi, ça m'a frappé. Un caddie au centre, mais au second plan. Et lui aussi, il m'a laissé un... Je ne sais pas, ça raconte quelque chose de la solitude aussi, je trouve. Là, j'y pense à l'instant. Donc, ce caddie au second plan, laissé à lui-même entre deux allées de marchandises et surtout cette pastèque éclatée au sol, comme s'il s'agissait du personnage principal. Avec en prime des couleurs vives et la lumière artificielle des néons qui ne sont pas sans rappeler Andy Warhol, je trouve, moi, un petit peu. Et alors, moi, je voulais savoir, est-ce que choisir cette photo était aussi ta façon à toi de rire jaune de ce monde qui n'est sans doute pas toujours fait pour toi, qui ne te convient pas forcément? Forme d'humour un peu noire, un peu sarcastique, un peu... ou pas du tout?
Je pense qu'il y a carrément une forme d'humour et le fait... moi, je trouve ça beaucoup plus facile d'habiter ce monde-là... Et notamment ce monde-là du supermarché avec le carrelage écru, quoi. Pas forcément en ayant un regard sarcastique, mais en vrai peut-être un peu, mais surtout en se souvenant de l'absurdité. C'est un peu ce que tu disais dans ton intro, quoi. Sur, ce genre de moment où on peut... parler fort ou rire ou d'une pastèque et tout
pleurer.
Ça dans un
ou pleurer. Je pense que quelqu'un ça pourrait une certaines personnes ça pourrait les faire pleurer de oui.
Mais oui, en plus c'est très rigolo parce que j'ai pris cette photo là au début de l'été et bref, pendant l'été à un moment donné avec une copine on allait faire des courses avant d'aller à un festival et nous est arrivée cette on n'a pas pris de sac caba donc on avait trop de fruits dans les mains. Et elle a laissé tomber une pastèque par terre qui a éclaté. Exactement pareil, mais déjà, on était deux. Et on a vraiment énormément ri. Et pour le coup, elle a prévenu quelqu'un du supermarché. Donc elle a mis sa pastèque dans un petit papier craft comme ça. Et elle s'est fait engueuler parce que le jus de pastèque coulait de son papier craft sur les chaussures du monsieur du supermarché. Qui lui a dit, mais arrête de dégueulasser mes chaussures. Et voilà, je trouve que c'est surtout des moments où ça nous rappelle un peu l'absurdité de suivre ce code-là, de suivre typiquement les normes sociales du supermarché. Enfin, on s'en fout, en fait, des normes sociales des supermarchés.
Oui, voilà. Et du coup, moi, j'y vois aussi une certaine poésie, en fait, quand j'ai vu ta photo. Et une poésie de l'absurde, soit, mais tout de même, elle correspond à cette photo parfaitement au début de l'étrange beauté du quotidien. Et c'est marrant ce que tu as raconté tout à l'heure sur ta collection que tu voulais faire. parce que au début c'était justement une collection de photos bizarres ou décalées avant d'être une émission. Et je voulais savoir, bah, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent ? Alors, t'as commencé à y répondre, ça je savais pas. Et est-ce que prendre ces petits riens du quotidien qui distendent notre drôle de monde, est-ce que ça c'est aussi pour toi trouver la beauté là où on a l'impression qu'elle n'est pas ?
Ouais, carrément. En vrai, c'est un truc qui me parle beaucoup, mais que je fais pas tant que ça, parce que j'ai vraiment très peu de photos sur mon téléphone. Enfin, j'ai pas un énorme réflexe de photos. Voilà, c'est pas un truc. Mais j'ai un truc que j'aimerais plus savoir parce que j'ai pas du coup énormément de souvenirs. Mais par contre, c'est vrai que j'ai peut-être plus le réflexe quand même de prendre des photos pour des trucs débiles comme ça que pour un beau paysage ou pour me souvenir d'un moment avec mes amis ou quelque chose. Et enfin, par exemple, quand on part en vacances avec des amis qui sont eux des gens qui ont le réflexe de la photo et que je remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai des souvenirs de paysages et de trucs qu'on a visités
qui sont vraiment aussi.
Qui comptent aussi quand même. Et en fait, souvent, j'envoie ma galerie photo de mes vacances et c'est soit des trucs utiles, genre, je sais pas, j'ai pris en photo un ticket de caisse ou un truc pour qu'on se souvienne, ou soit bah, c'est des trucs un peu débiles ou des photos ratées aussi. Enfin.
Mais qui va ouais. avec. Enfin, mais ça veut ouais. dire en tout cas que tu as le regard, même si tu n'as pas le réflexe de l'appareil photo, dans ton quotidien.
Ouais, par contre, c'est un truc
T'as ce regard-là du détail, du petit truc un peu décalé qui apporte quelque chose, du coup,
ouais.
dans ta vie.
Ouais. Oui, carrément.
Bah, j'allais te demander quel petit plus cela t'apporte-t-il, mais tu nous l'as dit. Et je voulais savoir, est-ce que ça raconte du coup peut-être une part fantaisiste, un peu bizarroïde, un peu décalée de toi ?
Ben ouais, et puis je trouve aussi que c'est une manière de faire de la poésie, enfin c'est de voir de la poésie sans forcément avoir... Enfin moi j'ai l'impression de, je sais pas, que de voir ce genre de petits trucs un peu rigolos ou décalés ou jolis, ça amène de la poésie dans ma vie sans que j'ai besoin d'une culture poétique très riche. En tout cas, en termes de poésie écrite, enfin, je sais pas, moi, je lis pas énormément de poésie, j'écris pas beaucoup. Et voilà, et tout comme en vrai, quand je fais de l'art, quand je dessine et tout ça, j'aime bien avoir un truc un peu décalé. Mais que par contre, je déteste qu'on me demande de l'expliquer ou même moi, je cherche pas du tout à... Donc dans mes illustrations et tout, souvent, j'aime bien avoir un petit truc qui ressemble à la réalité, mais pas trop, ou alors qui associe un petit peu des imaginaires et tout ça. Et je sais pas, ça me fait du bien de produire ça. Mais par contre, je ressens pas du tout le besoin de trouver un sens. J'aimerais que juste le décalage existe et soit poétique juste en soi.
Ouais.
Ouais, voilà.
Et que la porte, elle est ouverte justement pour l'interprétation de chacun, chacune, finalement.
Ouais, carrément.
Vous êtes bien dans l'étrange beauté du quotidien et nous allons maintenant laisser la place au deuxième choix de Manon. Écoutons le groupe Niagara interpréter « Quand la ville dort ».
Thank you.
venons d'écouter « Quand la ville dort » de Niagara, chanson composée et écrite par les deux membres du groupe Rennais, s'il vous plaît, Muriel Moreno et Daniel Chenevez. J'étais tellement contente de la réentendre que j'ai choisi la version du Maxi 45 Tours de 1987. Ça m'a replongé en quelques secondes dans ma propre enfance, même si j'avoue avoir été un peu surprise que tu la choisisses. Alors pourquoi ce choix? Que signifie-t-elle pour toi cette chanson?
Je ne savais même pas qu'ils étaient Rennais.
C'est vrai?
Ouais. Je suis contente que ça te parle aussi. Parce que de base, je ne sais pas quand j'ai découvert Niagara, mais un peu, c'est quand même des chansons que j'ai entendues un peu tout au long de ma vie, mais que je n'ai pas spécialement entendues genre chez mes parents et tout ça. Et en fait, je ne sais pas, mais elle m'aime vachement cette chanson. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça aborde plein de thèmes différents, mais je sais pas, autant musicalement que je la trouve trop belle. Enfin, je la trouvais déjà trop belle. Et cet été, on a fait une fête chez mes parents pour leur départ en retraite à leur fin de leur ferme. Mes parents sont paysans. Et du coup, voilà, j'ai essayé de mettre des musiques qui parlaient un peu à tout le monde, qui parlaient à la génération de mes parents et tout ça. Et ma mère m'a dit « mets du Niagara » et je savais même pas trop qu'elle aimait ça. Et j'ai mis cette chanson-là. Et en fait, c'était trop bien. Il a plu toute la soirée des cordes. Et du coup, on était avec ma sœur, ma maman, nos copines en bottes en train de danser sur cette chanson. Et en fait, ma mère m'a dit « mais je suis trop contente de vous voir autant être... » Et en fait, tout le monde connaissait les paroles par... avait le même rapport que moi. En fait, on avait toutes le même lien à cette chanson. On la connaissait par cœur, on l'adorait. Et du coup, j'étais c'est vraiment c'est super intergénérationnel, quoi. Et du coup, ma mère aussi était un peu surprise de nous voir connaître cette chanson-là par cœur et l'aimer autant. Voilà, c'était un super moment.
J'ai l'impression que tu viens de décrire une scène d'un film.
Ouais,
je vous vois tout ça. À fait. Ouais. J'imagine, là, j'ai une vision de gonzesse en botte danser presque sous la pluie, à chanter.
Ouais, dans un champ sous la pluie. Ouais. Et sachant que ma mère danse jamais en plus, et du coup, c'était d'autant plus important comme moment. C'était trop chouette.
Je comprends, j'imagine. Ouais. Et alors, moi, du coup, pour l'avoir écoutée avec une oreille nouvelle, je me suis aperçue qu'il y avait tout, absolument tout dans ce morceau, mais là encore, tu viens de le dire, c'est cette espèce de fausse légèreté qui tente de cacher une mélancolie certaine et qui va finalement assez bien avec un des autres thèmes que je perçois, le monde de la nuit, l'ivresse, la fête, l'amour, le sexe. Et une fois de plus, on y retrouve de la poésie, beaucoup de poésie, et puis la solitude aussi, sans oublier la liberté. Alors, par où commencer? Je sais pas. La vie, la nuit, peut-être, l'amour, par où tu voudrais commencer? Un sujet dans tout ça.
Ouais, en fait, oui, c'est vrai qu'en l'écoutant, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus. Et puis je me suis dit, en fait, on pourrait dire vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Je sais qu'il y a, du coup, il y a un vrai thème de un peu guérir du monde et de la vie et de la tristesse avec la fête et notamment le fait d'avoir une vie. Parallèle, parce qu'elle dit quand la ville dort, du coup, avoir un truc de vie parallèle la nuit où il y a moins d'injonctions et tout ça. En vrai, moi, c'est un truc qui me parle, mais que j'ai. Enfin, pour être hyper honnête, j'ai pas non plus un rapport super. Enfin, j'ai pas ce rapport-là à la fête.
T'as pas une vie dissolue, quoi.
J'ai pas. Voilà. Je noie pas tout dans la fête et tout ça. Même si vraiment j'adore la fête et en fait je pense que si en fait je pense que le lien c'est la danse parce que l'ivresse et la consommation et tout ça c'est un truc qui me parle beaucoup parce que je suis en vrai passionnée par le fait de pourquoi les humains prennent des substances depuis la nuit des temps et tout ça et du coup j'en ai fait mon travail et du coup j'ai découvert plein d'approches sur la question de la drogue et tout mais moi j'ai toujours regardé un truc hyper contrôle fric quoi sur la consommation et du coup c'est pas un truc où, c'est un truc qui me passionne mais où je me sens pas non plus giga concernée
mais ce qui n'empêche pas de faire la fête en fait
mais par contre
je me répète
ouais mais par contre Par contre, j'adore faire la fête et voilà. Et notamment la fête quand il y a de la danse, quoi.
Et alors, danser, du coup, on pourrait dévier un petit peu, j'avais pas prévu, mais qu'est-ce que ça t'apporterait particulièrement dans ce... Dans ce moment-là, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais nous, on se connaît par la danse contemporaine. Mmh. C'est là qu'on s'est rencontrés.
Ouais.
Mais c'est un autre cadre, c'est un cours. Là, qu'est-ce que ça pourrait raconter de toi, la danse en soirée? Est-ce que ce n'est pas la même chose?
Ouais, mais en fait, du coup, j'aime bien la danse. La danse, en fait, quand ça se rapproche de pas de la danse en soirée, justement. Enfin, en fait... Moi, j'ai la chance, parce qu'en vrai, je trouve que c'est une chance d'être à l'aise avec la danse et à l'aise avec mon corps pour danser, et qu'il y a plein de gens qui le sont pas, mais aussi parce que je fais la danse depuis que je suis petite et tout ça, que bah, du coup, on a fait la danse contemporaine et qu'en termes de liberté du corps, ça amène quand même beaucoup de choses où ça m'a appris à m'en foutre un peu de ce que, si c'était beau ou pas ce que je faisais et tout ça, si les gens allaient trouver que je danse bien. Et en fait, ouais, j'aime tellement ça que voilà. Mais du coup, la danse en soirée, bah, du coup, j'aime bien quand ça sort un peu du cadre et que ça devient un truc qui n'est pas la danse en soirée, qui est ce qu'on imagine, c'est-à-dire danser un peu, marquer le rythme avec son corps et voilà. Mais bah, en fait, avoir vraiment de la volonté propre, c'est-à-dire, mais en fait, si je veux faire un spectacle. Et en fait, le mieux, c'est de faire ça à plusieurs ou à deux. Et souvent, je trouve qu'on se monte un peu en miroir, des fois, avec, quand on sent qu'il y a quelqu'un qui aime bien danser en face de nous. Et du coup, ça prend des proportions. Et à la fin, on
fait... Oui, ce n'est pas des défis, mais on essaie quand même d'aller un peu plus loin et un peu plus loin. C'est un peu ça, l'idée.
Oui, c'est ça. Et puis, du coup, ça te rend plus confortable de voir que là, il y a quelqu'un qui va...
qui comprend ton...
Oui, exactement. Ouais, qui comprend que là, on a besoin de sortir de l'énergie, quoi. Mais d'ailleurs, ça m'est arrivé récemment de faire des cours de danse contemporaine en soirée. et de répéter des phrases, tu vois, qu'on entend beaucoup dans nos cours de danse et tout ça. Les gens me disaient « Ah, j'aimerais bien qu'on danse un peu ». Enfin, des gens justement qui ont envie de danser, mais qui ont besoin un peu d'outils pour dire « Ah, je sais pas quoi faire, moi j'aimerais bien danser, mais je sais pas comment on danse ». Et du coup, voilà. Des fois, je me transforme en présence contemporaine et je dis « On prend l'espace ».
Nathalie sort de ce corps. Voilà, petite dédicace, Nathalie.
Ouais.
Et alors, comme je le disais aussi, cette chanson, elle est empreinte de solitude. Moi, je mets souvent en recto ou au verso, c'est selon, avec le mot « liberté ». Et je voulais savoir si ces deux sentiments, tu les côtoies souvent? Est-ce qu'ils font partie de toi? Est-ce qu'ils partagent ton quotidien? Est-ce que tu te sens et libre et seul, ou que libre, ou parfois seul? Comment tu vis tout ça? Parce que c'est fort dans la chanson, je trouve.
Mais comment tu dis, c'est le recto que c'est?
Bah pour moi, c'est un peu le pendant. Non, c'est que c'est un peu le pendant. Oui, c'est l'un. C'est difficile que l'un aille sans l'autre.
Ouais.
Bah, c'est vraiment peut-être juste mon histoire personnelle, mais quand on tend vers une forme de liberté, ça va quand même beaucoup avec certains moments de solitude. Mais c'est mon... Peut-être que pour toi, pas du tout. Enfin...
Si, en vrai, je comprends. Mais je crois que je n'ai pas encore bien trouvé justement cet équilibre. Enfin, je ne sais pas encore exactement. Je pense parce que comme plein de gens, je me situe un peu au milieu, quoi. Dans un truc de... Je n'ai pas une position de... Moi, je supporte pas la solitude. Enfin, parce que je connais des gens qui, en fait, au bout d'une demi-journée de solitude, ça leur suffit pour avoir profité des bienfaits de la solitude. Et directement. Et l'inverse, je connais des gens qui ont une batterie sociale super limitée. Et du coup, j'ai pas trop encore réussi à trouver où je me positionnais là-dessus. En tout cas, je sais que le collectif me nourrit vraiment beaucoup et que j'adore ça. Mais que du coup, j'ai un peu tendance, je pense, à me noyer dedans, enfin à noyer un peu mon individualité dedans. Et du coup, je me force aussi à avoir des moments de solitude pour... en vrai, je me rends compte que quand j'en ai que, ça me repose. Et un jour, j'ai une pote qui m'a dit que c'était ça la différence entre l'introvertisme et l'extravertisme. Et donc, c'est très simpliste, comme je pense que c'est peut-être pas scientifique, mais...
On dit ce qu'on veut.
Dit... J'ai pas de source, d'accord. Mais qu'en gros, elle me disait, en fait, quand t'es extraverti, tu recharges tes batteries auprès des autres. Et quand t'es introverti, tu recharges tes batteries en étant seul, quoi. Voilà, je pense que c'est très simpliste. Mais du coup, moi, je pense que je recharge plus mes batteries en étant seul. Mais qu'il y a vraiment un temps qui, je pense, moi, est 2 jours. Genre un week-end, 48 heures, où je commence à
trouver le temps long.
Trop pouvoir me supporter, avoir besoin d'intervention d'autrui, quoi.
D'accord. Et alors, pour finir sur cette chanson, moi, je vais te faire un aveu. J'ai replongé dans les archives, du coup, j'ai perçu une drôle de ressemblance entre la chanteuse et toi. Je ne sais pas si c'est ses longs cheveux épais, la façon de regarder les gens. Je me suis dit que tu avais sûrement aussi ce côté un peu sauvage, indomptable, que j'ai trouvé chez Muriel Moreno quand j'ai revu 2-3 vidéos. Et voilà, donc comme on ne se connaît pas beaucoup, je voulais savoir si je me trompe ou est-ce que ça fait partie de toi aussi. Est-ce que, je ne sais pas si je suis claire.
Ouais, si, je pense que je vois. Bah, alors, par contre, j'ai pas.
Alors, c'est pas une ressemblance physique frappante, tu vois, mais ça m'a.
Ouais, je connais pas bien son. Je la connais pas bien visuellement. Moi, je la vois juste en petit sur des couvertures même. C'est juste une coupe très 80s, quoi. Ouais. mais oui, je pense que c'est un peu bien vu dans le sens où j'ai. Je pense que j'ai tendance à avoir un truc quand je rencontre les gens où je pense que c'est, en vrai, c'est beaucoup de la timidité et un peu du mal à trouver la bonne place et tout, mais qui peut, je pense, beaucoup souvent paraître comme un truc de distance ou... Ouais, comment on appelle ça ? Ah oui, enfin... Et du coup, j'ai l'impression que j'ai pas mal de relations où c'est une forme d'apprivoisement au début, ce qui va avec le côté un peu...
Indomptable.
Un peu sauvage.
Non, mais c'est une manière aussi de se... Ça peut être une façon de se protéger un petit peu, de pas foncer non plus dans une relation sans connaître personne en face ou...
Ouais, mais je pense que je le vis pas trop comme ça. Je pense que je le vis aussi beaucoup dans un truc où j'ai souvent du mal à comprendre les stades de relation, en fait, les débuts de relation, de rencontre des gens, je trouve ça un peu galère quand on commence à se dire qu'on s'entend bien et qu'on se rencontre. Et après, à quel point il y a quand même des étapes avant de devenir amis.
Oui.
Mais c'est, quand est-ce qu'on sait qu'on les a passés et tout ça, en vrai, je pense que c'est aussi ça qui me fait un peu galérer. Et où, du coup, j'ai tendance à... pas aller trop vite, mais parce que j'ai peur de pas avoir bien compris les étapes et de pas faire comme il faudrait un peu.
Oui, donc c'est pas forcément la sauvagerie, sauvagerie entre avec plein de guillemets, hein, bien sûr. C'est peut-être plus, ouais, comme tu dis, de la réserve plus que de la timidité même.
Ouais,
parce que
c'est ça. Je pense que apparaît souvent comme une forme de sauvagerie.
Oui, oui. C'est une fausse.
Ouais, qui est un peu. En vrai, je pense qu'elle est un peu fausse.
Bah, merci en tout cas pour ces partages qui m'ont personnellement, moi, ravie et replongée dans de beaux souvenirs personnels. La première partie de l'étrange beauté du quotidien est déjà finie et j'ai la tâche ardue de te proposer à présent mes choix pour toi, Manon. Choix que tu vas découvrir en même temps que les auditrices. Alors, es-tu prête ?
Ouais, oui, je suis prête.
Je vais d'abord te montrer la photo que j'ai choisie. Et je te laisse le soin de nous la décrire comme tu l'as fait tout à l'heure, une fois que tu auras pris le temps de l'observer, car je le rappelle, tu la découvres à l'instant.
Alors...
Bon, la qualité de la photo n'est pas super super, mais je veux dire l'impression.
Oui, l'impression. Mais du coup, c'est une photo qui est prise dans un musée ou dans une galerie. Donc au premier plan, on voit une sculpture. C'est la sculpture d'une personne qui est allongée sur un petit matelas, sur un sommier, un gros sommier en bois, en tout cas imitation bois, je présume, avec un drap. Donc la personne est nue, de dos, un peu recroquevillée, avec un drap sur le bas de son corps. Voilà, en position de sommeil finalement. Et au second plan, on voit des visiteurs du musée avec derrière une peinture, une fresque de grande taille. Voilà. Et la sculpture, est, je ne sais pas, j'arrive pas à savoir la matière. On dirait un peu du, soit du plâtre ou du ciment.
Je ne saurais pas te dire, j'avoue. Et est-ce qu'il y a une émotion, une sensation qui ressort comme ça à chaud quand tu vois cette image ?
Bah, ça m'évoque de la douceur. En vrai, enfin, du coup, la matière a l'air super costaud, mais la personne qui sommeille un peu recroquevillée, un peu en position fœtale avec un drap, bah, ça a l'air, ouais, ça me, il y a un truc de vulnérabilité et de douceur et de confort que je trouve très joli.
Il s'agit bien, en fait, d'une photo que j'ai prise il y a quelques semaines au Musée des Beaux-Arts de Rennes. C'était pendant ma visite de l'exposition de Claire Tabouret, juste avant que ça s'arrête, qui s'appelait « Entre la mémoire et l'oubli ». Et cette expo explorait à travers certains portraits de l'artiste quelques enjeux de notre monde, comme l'identité personnelle et le masque social, le conformisme et la subversion, la cohésion du groupe entre contrainte et émancipation. Et c'est drôle parce que finalement, on en a quand même déjà un peu parlé de tous ces thèmes. Et moi, alors, pas du tout, au contraire de la douceur, j'ai vu, elle m'avait un peu glacée quand je l'avais vue au milieu de ses visiteurs. Donc là, moi, j'ai joué sur la perspective quand j'ai pris la photo parce que normalement, elle est toute petite, la sculpture. Ah, elle, ouais, est beaucoup plus petite que ce qu'on voit là. Là, j'avais joué vraiment, j'avais un peu en contre-champ, enfin, pour donner une impression de grandeur. Mmh. Et moi, j'ai vu beaucoup de tristesse, de solitude, presque d'abandon, en fait. Mais du coup, j'allais te demander si tu voyais la même chose, mais pas forcément. Toi, tu vois plus de la douceur et...
Ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que... Mais je sais pas comment elle est de face... Si tu le, quand tu la,
je pourrais te la montrer.
Face,
ouais. Elle est pas très joyeuse. Elle est pas...
Oui, en fait,
oui, c'est ça. C'est biaisé pour moi parce que comme je l'ai vue en 360 degrés, oui.
Je pense que du coup là, on la voit de dos. Alors on peut soit imaginer qu'elle est un peu recroquevillée dans son lit avec en train de pleurer ou en tout cas en étant dans un truc de fragilité, quoi. Et je sais pas. Ouais, moi j'ai vu de la douceur dans un truc de... Je trouve ça doux d'être dans une position un peu fœtale avec un petit drap.
Oui. Moi je pense que c'est plus le décalage entre... Mmh. Pardon, je t'ai coupé.
Non, oui.
Entre justement ces visiteurs, ouais. Comme si elle était au milieu de tous ces gens qui... C'est peut-être ça, moi, qui m'a fait penser à la solitude et que, ouais, je trouve qu'il ressort sur la photo. Mais du coup, toi, comme elle est grande, la sculpture, toi t'as vraiment vu d'abord... cette douceur-là, de cette position d'endormissement.
Ouais. Mm. Bah ouais, elle est en taille réelle. Alors, pour moi, elle était un peu de la taille d'un humain, quoi. Et du coup, ouais, on dirait un peu qu'elle s'en fout de dormir à poil au milieu du musée aussi, quoi. Et du coup, c'est un peu... Ça a l'air cool, quoi.
Ouais, c'est vrai, vu de ce point de vue-là. C'est vrai, t'as raison. Et alors pour moi, cette photo, elle est aussi l'occasion d'aller un peu au-delà. Mais là encore, tu en as parlé déjà. C'est ton rapport à l'art et plutôt même aux arts au pluriel. Parce que j'avais l'impression que c'était plutôt comme ça qu'il avait de l'importance dans ta vie. C'est pas l'art, c'est les arts, les cultures. Voilà, je voulais savoir quel est ton rapport aux arts en général et aux cultures en général.
Ouais.
C'est très vaste, hein.
Oui. Oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, ça a carrément une place dans ma vie où là, j'ai décidé d'arrêter de travailler aussi parce que j'avais besoin de repos et que j'avais un peu envie de me reposer, quoi, et de faire une petite pause de mon travail, mais aussi j'avais besoin de prendre du temps... pour un peu mettre en forme plein d'idées qui me passaient dans la tête et que j'avais l'impression que j'avais pas le temps de concrétiser. Et c'est vrai que là, en ayant du temps, je me rends compte que j'ai envie de faire des choses sous plein de formes. Et j'ai des trucs de prédilection. En vrai, enfin, j'adore peindre et j'adore danser, mais en vrai, pourquoi pas faire un spectacle, j'ai envie de me mettre à la couture, tout ça. Donc, ouais, carrément. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle vraiment, ouais, dans un truc de... comment on dit ? de sortir des choses, mais sans non plus être dans un truc super direct.
Oui.
Et
oui, oui.
Juste, ça me permet aussi de comprendre un peu qui je suis. Quand je vois ce que je produis visuellement, ou même avec mon corps en dansant et tout ça, parce que je trouve ça un peu dur en vrai de... Enfin, peut-être pas tout le monde, moi je trouve ça dur de savoir c'est quoi notre identité et tout ça. Et du coup, même en faisant de l'art, des fois j'ai l'impression de faire un peu tout. Et en fait, des fois les gens me disent « Non, non, t'as vraiment un univers un peu. » Et du coup, ça permet aussi d'avoir les choses que je peux produire avec mes émotions et ce qui me fait envie. Quand je les regarde, ça me permet aussi de comprendre dans quel univers un peu je me trouve, ce qui me parle, ce qui me touche et tout ça. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai grandi avec... Mais du coup, c'est plus aussi un truc de créer plutôt que l'art en général
oui.
qui me parle. Parce que moi, j'ai grandi avec, pour le coup, une maman et une sœur très créatives. Enfin, ma mère, elle nous faisait des ateliers et tout ça. Enfin, elle m'emmenait des fois à aller peindre et tout, sans que ce soit du tout un truc culturellement... Enfin, je sais pas trop elle d'où elle a sorti ça, mais en tout cas, c'était...
Instinctif.
Enfin, faisait beaucoup partie de sa vie. Et du coup, enfin ça fait, pardon, elle est toujours avec tout. Du coup, j'ai grandi avec ce truc-là de ma maman et ma sœur qui me faisaient dessiner, qui me faisaient... Et du coup, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de BD, de petites BD de mon quotidien. En fait, j'inventais surtout des histoires à mes chats et mes chiens et mes lapins. Voilà, je leur inventais des vies. Et du coup, je faisais des petites BD beaucoup. Et en fait, après, ça ne m'est pas du tout venu en tête de faire un métier ou de faire des études en rapport avec quelque chose d'artistique. Et du coup, aujourd'hui, j'essaye un peu que ça prenne plus de place dans ma vie, mais je n'ai pas fait d'école d'art. Enfin, et en vrai, moi, je ne trouve pas ça problématique parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir aussi moins des fois de barrières. J'ai peut-être moins de techniques et tout ça, mais d'avoir moins de barrières. Mais en fait, par contre, en essayant de plus en plus de participer à des trucs artistiques et du coup d'échanger, de rencontrer d'autres artistes et tout ça, je me rends quand même compte que la plupart des gens qui créent dans le monde adulte sont des gens qui ont fait des écoles d'art et qui sont passés quand même par un parcours artistique beaucoup.
Plus cadré, quoi.
Ouais. Et du coup, avec des références et une culture artistique qui est beaucoup plus fournie que la mienne, quoi. En théorie, en vrai, je trouve ça cool aussi d'avoir un autre chemin pour arriver à la création, mais bon voilà, faut pas perdre en légitimité avec ce truc là mais par contre ouais, il y a des codes que, enfin voilà, c'est aussi une histoire de code et de réseau en fait, enfin
que t'as moins quoi,
que j'ai moins, ouais.
Oui, mais tu te sens à ta place. Bon, quand tu dis légitimité, c'est ça n'empêche pas d'être à sa bonne place.
Ouais, en tout cas, quand je crée, je m'en fiche d'avoir une place, quoi, parce que
oui.
je le fais. Mais des fois, si je pense au fait de faire de la création, que ça prenne plus de place dans ma vie, et peut-être que ce soit une activité un peu plus, là, je me confronte plus à des trucs de « Ah, mais en fait, tout le monde a ces codes-là, et moi, ils ne me parlent pas du tout, et j'ai pas non plus très envie qu'ils me parlent. Il y a plein de trucs du monde artistique qui me... parle pas tant que ça, quoi, mais...
J'allais te demander si c'était un héritage familial, mais tu y as répondu, parce que ça vient quand même de ta maman et de ta grande sœur, du coup.
Ouais.
Ouais. Donc, ça vient de toi, mais ça l'histoire, elle vient quand même de ton enfance.
Ouais, en tout cas, le réflexe de créer, de dessiner, et tout ça, ça... Ouais.
Il est temps pour vous, chers auditeurs, pour toi Manon, de découvrir la chanson que je t'ai choisie. Je ne vous dis pas tout de suite de qui il s'agit, je garde le secret jusqu'au bout. Laissez-vous porter.
Qu'est-ce qui, au fond, nous empêche cache. Qu'est-ce qui tend nous encombrant et qui fait que l'on laisse jusqu'à l'ombre de ce qu'il nous reste. Regarde ce qu'il nous reste. Qu'est-ce qui tend nous encombre? Est-ce qu'il nous encombre? Il nous encombre. Qu'est-ce qui, au fond, nous empêche? Qui, au fond, nous empêche? Qu'est-ce qui tend nous encombre? J'en fais le serment devant vous sciemment. Je tracerai dans le monde, ne serait-ce que l'esquisse pour chaque étoile qui tombe, pour nos filles et nos fils, d'une armée de colons.
Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Léonie Bernet qui chante « Réparer le monde », morceau sorti en 2024 et interprété ici en session live d'Arte il y a quelques mois. Tout d'abord, à chaud, connais-tu cette chanteuse et surtout, que t'inspirent ses mots et sa mélodie ?
Non, je ne connais pas. Je ne connaissais pas, mais c'était super joli. J'ai bien aimé, ouais, ça m'a beaucoup plu. Et puis en vrai, la question de est-ce que ça nous incombe de réparer le monde, ça me parle.
Bah, j'ai essayé de choisir un peu quand même de ce que j'imagine, de ce que je suppose connaître de toi. Mmh. Et cette chanson, Léonie Pernet, elle l'a écrite comme une fulgurance. Je rajouterais même comme une urgence de vivre ou d'agir, peut-être, face aux horreurs du monde, face à cette violence insupportable et qui dure, notamment en Palestine. Et ça m'intéressait de savoir, toi, comment tu te dépatouillais de ton côté avec le pire, entre guillemets, de l'être humain, avec tout ce qu'on vit plus ou moins directement, toutes les infos qui nous tombent dessus. Comment toi, tu fais avec tout ça?
Alors, c'est très simple. Ouais. Alors, j'ai une solution très facile.
On n'écoute pas les infos.
Non, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution miracle, mais moi, ça m'aide d'avoir une forme d'engagement. En tout cas, ça... Déjà, ça m'aide d'avoir compris, mais ça c'est plus récent, mais d'avoir compris comment fonctionnait l'information, enfin, d'avoir compris comment les médias et les politiques avaient une méthode qui était de nous enchaîner de trucs terrorisants et affligeants pour nous. En fait, qu'on arrive à ce stade, j'ai l'impression, dans lequel on est beaucoup à être, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, en ce moment, d'être déjà dans un truc de sidération et d'abandon, en fait. Enfin, d'être dans une forme de... Et c'est hyper dur de pas être là-dedans, quoi. Et d'être dans un truc de... Peu importe où on regarde, c'est la misère, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et on essaie... Enfin, voilà, on peut regarder partout. Et du coup, ça paraît tellement être une montagne que je comprends... Enfin, voilà, mais il y a des moments où je suis dans un truc de... Et du coup, c'est là aussi que, quand on dit pouvoir avancer avec ça, où il y a des trucs d'absurdité qui peuvent réparer, des fois, enfin, le fait de dire, en fait, tout est tellement absurde, sauf que ça mène pas à l'action. Enfin, ça fait pas évoluer les choses, ça permet des fois de mieux supporter pour garder un peu d'énergie et tout ça. Mais... moi, ça fait très longtemps que je sais que j'ai besoin, en fait, au-delà de... Dans un truc un peu de carrière et tout ça, et de envie professionnelle, enfin...
En tant que citoyenne.
Ouais, en fait, ouais. J'ai envie d'avoir une forme d'engagement, même si c'est super. En tout cas, d'avoir une forme d'action qui est liée à mes convictions politiques. Et du coup, par exemple, c'est... Donc, j'ai fait des études dans le travail social. Après, du coup, ça m'a fait me renseigner sur des choses, mais après, ça m'a fait poser des questions en soi, même sur le travail social, etc. Et sur la portée politique que ça avait, en fonction des tafs qu'on faisait et tout ça. Et du coup, là, j'ai bossé 4 ans et demi en réduction des risques aussi, parce que ça me... C'était du travail social, mais qui, en plus, avait une portée... militante et politique, parce que c'est, en tout cas, c'est une posture dans laquelle je me sentais vraiment bien et où j'avais peu de dissonance cognitive entre ce que je faisais et ce que je pensais, parce qu'en plus c'est un combat qui est encore aujourd'hui hyper actuel, même si en soi là depuis quelque temps même les combats les plus basiques sont devenus des combats actuels, on est en train de se battre pour des trucs super basiques. Mais du coup, voilà, une forme d'engagement. Et pour les trucs qui paraissent... Donc, moi, c'est ça sur un truc local et concret avec les gens de mon entourage, c'est-à-dire que... Enfin, les gens qui m'entourent géographiquement. Donc, en fait, j'habite dans une ville où il y a des gens qui sont dans une extrême précarité. Et ben du coup, ça me fait du bien de les connaître et d'être... Mais bon, après, c'était mon travail. Donc, c'est un truc professionnel, c'est encore autre chose. Mais voilà, mais par contre, pour les choses qui sont plus lointaines, et je pense que c'est là que ça devient aussi compliqué, pour un génocide en Palestine et dans d'autres régions du monde, donc le fait qu'on se sente impuissant, et en plus que ce soit loin, et qu'en même temps on ait des choses très concrètes, comme des images sur les réseaux sociaux. Et du coup, moi, il y a un truc que je trouve que des fois j'ai du mal à y trouver du sens, mais que je pense qu'est vraiment important, c'est que notre rôle, c'est de ne pas arrêter d'en parler.
Oui.
Enfin, c'est en tout cas ce qu'on peut faire quand on pense qu'on peut rien faire, même si on a l'impression de... Enfin, moi, j'ai l'impression d'être traînée avec des gens qui sont convaincus et tout ça, mais en fait, il faut toujours faire exister, par exemple, la parole des populations palestiniennes et que ça ne cesse pas d'exister et qu'il n'y ait pas de silence, quoi, qui est, je pense, un peu le truc de l'abandon. Et voilà, enfin... Et en fait, se rassembler aussi, des fois, ça fait du bien. Et aller à des manifs, à des projections, à des trucs... ben, on va peut-être tous être dans la même sidération ou dans le même un peu abandon de... En fait, ça fait des années qu'on lutte et il y a des, et il se passe rien. Mais voilà, je pense que...
Ça porte un peu le fait de ne pas être seul, d'être moins seul, entre guillemets.
Bah ouais. Ouais. Je pense qu'en vrai, c'est un peu la réponse à plein de choses dans le monde actuel, c'est qu'il faut faire collectif et retrouver... Et du coup, je pense
retrouver,
que...
Alors, je te coupe, mais retrouver, je trouve que depuis le Covid, justement, c'est très important, ce terme, retrouver.
Ouais.
Qu'on a énormément perdu ces 5 dernières années, cette idée du collectif, mais même en amitié, même, même sur des choses très basiques de relations humaines, qu'on a tous et toutes plus ou moins eu tendance à se renfermer sur nous-mêmes, et ce qui a peut-être aussi permis des choses qu'on voit même politiquement, en fait.
Bah ouais, c'est ça. Enfin, je trouve qu'il y a déjà un truc qu'on l'a perdu, et en même temps, on va... en avoir besoin plus que j'ai... Enfin, voilà, peut-être que c'est pas le cas, mais je pense que les années qui arrivent vont être vraiment très compliquées, notamment pour les personnes minorisées, quoi, pour les plus pauvres, pour les gens qui sont pas blancs, pour les gens qui sont pas hétéros et tout. Et du coup, en fait, on va... Moi, le truc qui me questionne beaucoup en ce moment aussi, c'est le fait qu'on va devoir recréer de la solidarité ailleurs que là où on avait l'habitude d'en avoir, c'est-à-dire avec... la sécurité sociale, des choses qui étaient devenues un peu des systèmes et tout, et que c'est compliqué d'imaginer d'autres formes de solidarité qu'on n'a jamais connues et qu'on ne connaît pas et tout, mais du coup, je pense que en tout cas, se retrouver et faire du collectif le plus souvent possible, ça peut permettre qu'on essaye de limiter la casse en faisant de la solidarité pendant qu'on se réorganise politiquement, quoi, mais...
Il n'y a pas de recette miracle, mais tu as quand même donné 2 ou 3 petits...
Ouais, mais c'est un peu bateau, mais...
Bah non, pas... enfin, des fois, on a besoin aussi de rappeler ce qu'on appelle des évidences. Enfin,
ouais.
On les oublie, hein, aussi.
Oui, ça fait jamais de mal.
Et puis, ça fait partie de ta vie, concrètement.
Ouais.
Alors, dans cette version, moi, de cette chanson de Léonie Pernet, ce que j'aimais aussi particulièrement, c'est que la sincérité et les émotions... sont telles parfois dans sa façon de chanter qu'on perçoit comme une fausse note, une fêlure, un pas de côté. Et je me dis, je pensais que c'était quelque chose qui pouvait compter dans ta vie, les pas de côté, mais en fait, tout le long de l'émission, tu nous l'as un peu dit, que ça fait partie intégrante de ta conception de ce qu'est quelqu'un de riche, ou de ce que tu es peut-être toi, ou de ce que tu aimes chez les autres.
Ben, je sais pas trop comment... Enfin, je saurais pas trop te faire un chemin précis, mais en tout cas, ce qui m'a amené à faire notamment les choix de formation, de travail et tout ça, c'est aussi d'être en lien avec la marge. Ben, je pense que c'est toujours bien dans une société... enfin, en tout cas, dans une société inégalitaire comme laquelle on est, d'avoir un lien, je sais pas, enfin, d'être du côté des personnes qui sont marginalisées, enfin, qui sont en dehors d'une norme, et ça peut être de plein de manières, mais en tout cas de toujours d'abord penser à l'intérêt de ces personnes-là et après de voir, enfin, mais ouais, je sais pas, enfin, c'est, je sais pas, ouais,
on est ensemble.
Il y a un truc de c'est un peu ennuyant, cette histoire de normes, mais c'est surtout ennuyant quand, bon là c'est plus ennuyant mais c'est violent, quand en plus ça fait violence à des gens, quoi.
Donc, de toute façon, sans aller jusqu'à la minorisation, sur la marginalité totale, sur la précarité, dans nos vies à tous et toutes, c'est pas une route droite et linéaire, en fait.
Bah ouais.
C'est qu'on est tous et toutes faits de ces fêlures-là, que moi j'entends particulièrement dans cette version de chanson, mais qui est dans la vie.
Bah oui, c'est ça. Oui. Et que du coup, quand on tient absolument à cette norme-là, le moment où toi, personne très normale, depuis le début de ta vie, il y a une fêlure qui arrive, c'est extrêmement difficile, mais pour des raisons super nulles, quoi.
Avant de clore cette émission, la deuxième de cette nouvelle saison, je te laisse quelques instants pour nous lire un texte que tu as envie de partager. Nous sommes toutes oui.
Je peux t'expliquer un peu d'abord ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Je ne sais pas si c'était là, un jour, un cours de danse, on a parlé du petit livre Les gens qui dansent.
Ah oui, oui, je m'en souviens très bien.
Et du coup, on a parlé de ça et j'ai dit que je l'avais chez moi. Et d'ailleurs, du coup, que c'était rigolo parce que avec ma coloc, quand on s'est mise en coloc, on a tous les deux mis notre petit livre sur le placard. Et moi, j'avais Les gens qui dansent et elle avait Les gens qui tombent. C'est trop mignon.
Et je me souviens, tu l'avais dit.
Ouais. Oui. Et du coup, voilà. En fait, il y a des illustrations avec des petits bouts de poèmes.
Et il y a un auteur, une autrice ?
Oui. C'est de Marcella pour les textes et de Marie Poirier pour les dessins. Les gens qui dansent marchent au bord du monde. Les gens qui dansent dessinent l'espace avec les jambes, les bras, l'espérance. Les gens qui dansent transportent l'étrange beauté du monde au creux de leur ventre. Les gens qui dansent habitent la terre en oiseaux. Les gens qui dansent repoussent les murs, les plafonds, les portes. Les gens qui dansent se débordent avec élégance. Les gens qui dansent sont ensemble. Les gens qui dansent traversent leurs rêves les yeux ouverts. Les gens qui dansent fabriquent des sols d'enfance à chaque pas. Les gens qui dansent cherchent pour ne pas trouver. Les gens qui dansent laissent danser des lacs sauvages dans leurs yeux. Les gens qui dansent puisent la puissance dans l'impuissance. Les gens qui dansent se lavent le visage avec l'été. Les gens qui dansent chutent, s'ouvrent, saignent, se pansent, réitèrent. Les gens qui dansent s'en balancent.
Je tiens à te remercier une nouvelle fois, Manon, pour ta présence, pour tes mots qui ont peut-être réparé une micro-poussière de quelque chose, quelque part. Ce rendez-vous aura au moins réparé une micro-poussière à l'intérieur de moi, et c'est déjà ça. J'espère qu'il en a été de même pour vous, chers auditeuristes. Les petits bouts de ton histoire un peu dévoilés me confortent une nouvelle fois dans l'idée que toutes nos vies ont cette extraordinaire et étrange beauté. Alors si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à me suivre. Prochain rendez-vous dans 2 semaines avec une nouvelle vie qui se raconte. Merci à Thibaut pour la création du générique, à Isa pour avoir prêté sa voix. Merci aussi à Maud qui a géré la technique aujourd'hui. Je te dis au revoir Manon.
Merci beaucoup.
Et puis je vous dis au revoir à vous, chères auditrices, chers auditeurs.